5 jours. On vous souhaite de dépasser le record de peut-être 150 000 visiteurs pour cette édition. Merci à vous, Romain Grabowski. Merci à tous nos invités pour cette émission consacrée, vous l'avez compris, évidemment, à l'automobile. Je remercie Corinne Reich à la réalisation, ainsi que Diana Ngoma et César Dian pour la préparation. Demain, 21h, place à la politique, à la place de la France bouge, la France en face. On se retrouvera évidemment mercredi, nous. Et dans un instant, journal de 22h, présenté par Maëla Sani.
Europe 1, 21h, 22h, la France bouge. Aurélien Fleureau.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h.
Europe 1 nuit. Maëla Sani.
Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accompagner en ce lundi soir pour Europe 1 nuit jusqu'à 22h30. À la une de votre journal, des regrets et de l'amertume exprimés tout à l'heure par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre contraint de trahir sa promesse et d'utiliser l'article 49.3 pour faire adopter le budget de l'État. LFI et le RN déposent des motions de censure. Le gouvernement est-il sur le point de tomber? Estimation dès le début de ce journal. Face aux menaces de surtaxes douanières brandies par Donald Trump pour forcer les pays européens à céder le Groenland, quelle riposte sur le vieux continent? Un sommet extraordinaire prévu jeudi soir et d'ici là, Emmanuel Macron va défendre la réponse la plus forte, vous l'entendrez. Dans ce journal également, l'ancien secrétaire général du FN, Nicolas Bay, auditionné aujourd'hui au procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires. Les dernières informations sur cette catastrophe ferroviaire hier soir dans le sud de l'Espagne, au moins 40 morts. Et puis vigilance orange au cru, levée dans l'Aude.
Eh bien, selon les
Sébastien Lecornu fait volte-face et annonce l'utilisation du 49.3 pour faire passer le budget de l'État. Le Premier ministre s'était pourtant engagé à renoncer à cette arme constitutionnelle lors de son arrivée à Matignon en octobre dernier. Promesse impossible à tenir en l'absence de majorité. Alexis de la Fontaine, LFI et le RN annoncent déjà le dépôt de 2 motions de censure en réponse à ce 49.3. Le gouvernement peut-il être renversé ?
Eh bien, selon les derniers décomptes d'Europe 1, Sébastien Lecornu devrait rester en poste. Seulement 275 députés sur les 289 nécessaires devraient voter la motion de censure. Grâce à ces dernières concessions, comme la hausse de la prime d'activité, le repas à 1 euro pour tous les étudiants ou la création d'une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, le Premier ministre s'est assuré le soutien du Parti Socialiste. À droite, la pilule reste difficile à avaler pour les Républicains, car Sébastien Lecornu n'a pas respecter les lignes rouges présentées par Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui réfléchit encore à censurer le gouvernement. Pour Bruno Retailleau, cela ne fait aucun doute. Ce budget va causer de la dette en plus, des emplois en moins et un pouvoir d'achat en berne pour les Français. Mais selon les informations d'Europe 1, les Républicains devraient finalement ne pas voter la motion de censure car ils souhaitent passer à autre chose. Je préfère adopter ce budget qu'une nouvelle crise politique, conclut un député de droite.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, les Républicains sur le point de laisser une dernière chance de ne pas censurer le gouvernement Lecornu, eh bien je poserai la question à l'invité politique d'Europe 1 Nuit à partir de 22h15, le député LR de l'Aisne, Julien Dive. Malgré les concessions accordées au Parti Socialiste, la copie budgétaire confirmée aujourd'hui ramènera le déficit public à 5% du PIB, selon le Premier ministre. Emmanuel Macron salue un compromis qui permet, je cite, de garantir la stabilité et au pays d'avancer. Les bourses européennes termine en nette baisse ce soir. Les tensions entre les États-Unis et l'Europe inquiètent fortement les investisseurs. Tensions créées par la menace de surtaxes douanières sur 8 pays européens, dont la France et l'Allemagne, brandies par Donald Trump pour prendre le contrôle du Groenland. Un sommet européen extraordinaire est prévu jeudi soir pour préparer une riposte. Et Emmanuel Macron défend l'activation de l'instrument anti-coercition des 27. Arthur Delaborde.
Effectivement, Emmanuel Macron plaide donc pour la réponse la plus dure, surnommée le bazooka européen, une arme économique très lourde, limiter les importations américaines, bloquer des investissements, fermer des marchés publics, autrement dit, ouvrir une guerre commerciale avec Washington. Le président français veut montrer qu'il ne cède pas, mais il se heurte pour le moment aux réticences, notamment de l'Allemagne et de l'Italie. En face, Donald Trump, lui, assume le bras de fer. Les États-Unis l'ont dit clairement, répondre serait très mal avisé visée. Pour eux, le Groenland n'est pas un sujet diplomatique, c'est qu'un actif stratégique et un enjeu de sécurité. Conséquence immédiate, les bourses européennes chutent, les marchés sentent l'escalade et pendant que Paris parle sanctions, le Danemark et le Groenland proposent autre chose ce soir, une mission de surveillance de l'OTAN sur place, une réponse collective, militaire, encadrée. Le contraste est net, Emmanuel Macron veut incarner la fermeté, mais il apparaît isolé, sans réel soutien de la part de ses partenaires européens.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 est dans un courrier adressé au Premier ministre norvégien. Donald Trump dit clairement qu'il souhaite désormais évoluer seul contre tous. Le président américain affirme, je cite, qu'il ne se sent plus tenu de penser uniquement à la paix dans la mesure où il n'a pas obtenu le dernier prix Nobel de la paix. Donald Trump qui lance dans le même temps son propre conseil de paix, une instance créée sur mesure par le président américain pour contourner l'ONU. Le Maroc devient le premier pays à rejoindre ce projet malgré un tarif fixé à 1 milliard de dollars pour devenir membre permanent. La France assure qu'elle ne compte pas donner de suite favorable à cette invitation à ce stade. Le Premier ministre espagnol promet une transparence absolue sur les causes de la catastrophe ferroviaire survenue hier soir en Andalousie. Au moins 40 morts et une centaine de blessés, bilan toujours provisoire dans cet accident impliquant deux trains des compagnies Irio et Renfe. Alexis Bourdon, que sait-on du déroulé des faits ?
Eh bien, pour des raisons encore inconnues, l'arrière du train de la compagnie Irio en direction de Madrid déraille et glisse sur l'autre voie parallèle à la sienne. 20 secondes plus tard, un train de la Renfe qui arrive en sens inverse percute de plein fouet les wagons qui se trouvent sur son chemin. Les enquêteurs étudient plusieurs pistes, défauts de voie, problèmes techniques ou encore erreurs humaines. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est lui décidé à faire toute la lumière dans cette affaire.
Nous allons découvrir la vérité, nous allons trouver la réponse et lorsque nous connaîtrons l'origine de cette tragédie, nous la porterons à la connaissance du public par le biais des médias en toute transparence et clarté.
Au total, près de 500 personnes voyageaient à bord des deux trains. Ils circulaient sur une ligne droite entièrement rénovée en mai 2025 et en dessous de la limite de vitesse autorisée. Le train qui a déraillé n'avait que 4 ans et avait été révisé jeudi dernier. La Guardia Civil a invité les familles sans nouvelles de leurs proches à signaler leur disparition, mais aussi à fournir des échantillons ADN pour aider à identifier les corps.
Alexis Bourdon et 3 jours de deuil national sont décrétés en Espagne après cette catastrophe ferroviaire.
Oui, face aux questions de la présidente du tribunal
début
sur le
de la deuxième semaine d'audience au procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, l'ancien eurodéputé et secrétaire général du parti Nicolas Bay était appelé à la barre aujourd'hui. Ce proche de Marion Maréchal a reconnu que son collaborateur payé par le Parlement européen pouvait, dans certains cas, s'éloigner de sa mission première. Mais il réfute pour autant toute intention de commettre un délit, Alexandre Chauveau.
Oui, face aux questions de la présidente du tribunal sur le rôle de Timothée Houssin, son assistant parlementaire de l'époque, Nicolas Bay plaide d'abord la zone grise. Quand il me préparait des notes pour une émission de télévision par exemple, il le faisait à la fois pour le député européen, mais aussi pour le représentant du Front National que j'étais, avance Nicolas Bay, qui insiste sur le contexte de l'époque, en 2014, où ni l'affaire Fillon, ni celle des assistants parlementaires du Modem n'avaient encore marqué l'actualité. L'eurodéputé dit néanmoins reconnaître a posteriori les faits mis en cause par l'accusation. Aujourd'hui, je comprends ce que l'on me reproche, dit-il. J'ai sans doute eu tort de ne pas être plus vigilant, mais au moment des faits, à aucun moment je n'avais conscience de commettre un délit, ajoute-t-il. Une inflexion claire dans la stratégie de défense que pourrait également adopter Marine Le Pen demain lors de son audition. Quitte à assumer une condamnation, la principale prévenue espère démontrer que le risque de récidive est nul pour tenter de faire tomber l'exécution provisoire associée à la peine d'inéligibilité prononcée en première instance, une peine qui la prive à ce stade d'une candidature à la présidentielle.
Alexandre Chauveau à la Cour d'appel de Paris pour Europe 1. Les débats promettent d'être animés dès demain dans l'hémicycle du Sénat. Le texte sur la fin de vie adopté par l'Assemblée il y a quelques mois sera étudié et la majorité de la droite et du centre dans la Chambre haute pourrait instaurer davantage de garde-fous à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Des garde-fous espérés par les petites sœurs des pauvres dont la mission principale est d'accompagner les personnes malades en fin de vie dans un EHPAD de Versailles géré par cette congrégation. Ce qui est redouter, c'est que la mort devienne l'option la plus accessible au détriment de la vie. Le reportage européen de Cyril de la Morinerie.
Madame Limbourg ?
Oui.
Nous voilà.
Germaine, 94 ans, nous accueille le sourire aux lèvres dans sa chambre ouverte sur un jardin. Arrivée ici il y a 2 ans et demi pour y vivre les derniers moments de sa vie, elle ne comprend pas que l'on puisse peut-être bientôt légaliser en France l'aide à mourir.
La fin de vie ici, c'est une vie qui continue. On peut aller jusqu'à la fin de vie quand on est bien accompagné.
Pour vous, la vie est sacrée ?
Bien sûr.
Dans cet établissement tenu par les Petites Sœurs des Pauvres, l'équipe médicale veille jour et nuit sur les personnes âgées. Madeleine, aide-soignante, a vu de nombreux résidents reprendre goût à la vie.
Des fois, quand ça arrive que le résident dit « je veux partir, je suis fatigué », mais après, quand ils sont bien accompagnés, ils changent d'avis. Non, je ne pourrai jamais donner la mort. Jamais de la vie.
Et cette proposition de loi sur la fin de vie fait naître de vives inquiétudes à Sœur Marie-Christine, mère supérieure de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres à Versailles.
Elle nous inquiète parce qu'elle est assez coercitive. C'est difficile de trouver un sens pour accompagner la vie, pour que ça se termine comme ça, de façon aussi brutale. En tout cas, il faut qu'on fasse tout ce que nous pouvons pour que nous gardons notre... c'est une clause de conscience, tout simplement.
La Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres entend continuer sa mission, accompagner les personnes âgées jusqu'à leur mort naturelle dans le respect et la dignité.
Le reportage européen de Cyril de la Morinerie. Après plusieurs semaines d'interruption, les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public reprennent aujourd'hui. Parmi les personnalités appelées à être auditionnées dans les prochains jours, les journalistes Léa Salamé et Laurent Delahousse ou encore la ministre de la Culture Rachida Dati. Un homme au centre de l'attention, le rapporteur de la commission, le député UDR Charles Alloncle, vivement critiqué par les défenseurs du service public. Mais Maïalène Trémollet, pas question pour ce jeune élu de changer de méthode.
Les polémiques continuent, mais Charles Alloncle persiste. « On ne me censurera pas, on ne me bâillonnera pas », explique-t-il dans les colonnes du Point. Une référence directe aux multiples critiques formulées ces dernières semaines sur sa gestion des auditions, à commencer par un rappel à l'ordre de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale sur les antennes de Radio France. Des critiques qui ont même amené le président Jérémy Patry-Lettus à interdire toute diffusion en direct des travaux de la commission sur les réseaux sociaux. Dans l'entourage de Charles Alloncle, on dénonce un coup de communication du président et on refuse de s'inquiéter. Les Français nous suivent avec un intérêt croissant et je reçois des milliers de messages de soutien, martèle l'élu UDR, pour qui le plus important est désormais de parvenir au bout des auditions. Et le rapporteur sait que l'enjeu des prochains mois est double, puisqu'il doit d'une part maintenir l'exigence de ces questions pour dévoiler l'ensemble des potentielles dérives et gabegies de France Télévisions et Radio France, et d'autre part préserver la crédibilité et le sérieux de cette commission pour donner tort aux accusations de tribunal médiatique ou politique portées par une partie des députés qui en sont membres.
Maïalène Trémollet. Un accord complémentaire signé à l'Élysée sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Annonce d'Emmanuel Macron ce soir après 3 jours de réunion avec les différents élus de l'archipel, à l'exception des indépendantistes du FLNKS qui boycottent ces discussions. Ce nouveau compromis est présenté comme un complément à l'accord de Bougival signé l'été dernier. Les habitants des quartiers de Narbonne évacués hier soir ont pu regagner leur domicile à la mi-journée. Évacuation décidée par la préfecture de l'Aude en raison des intempéries et des risques de crues. Charles Huillier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Coursan, près de Narbonne, où le plus dur de cet épisode semble être passé.
Oui, tout à fait. L'heure est un peu au bilan ici. Il est tombé l'équivalent de 4 mois de pluie en l'espace de 48 heures dans le département. La pluie qui continue en ce moment, mais dans des proportions bien moindres. L'Aude, ce fleuve qui traverse plusieurs villages, notamment celui où je me trouve, est évidemment toujours en crue. Mais là encore, la situation semble sous contrôle et le maire, Édouard Rocher, reste vigilant.
Là, vous avez l'Aude, vous avez sur toute la partie droite, la commune qui est protégée par une digue, celle qu'on voit tout à fait ici. Et les élus sont présents en cellule de crise, j'y suis présent. Les services techniques sont mobilisés. On photographie, on contrôle les digues. On téléphone aux campagnes ou aux habitants s'il y a le moindre risque et on contrôle surtout les ouvrages.
Des ouvrages qui ont très bien résisté ici et des habitants qui, pour la plupart, sont rentrés chez eux. Quelques personnes considérées comme vulnérables sont encore, à l'heure qu'il est, hébergées dans un gymnase à Narbonne. C'est le cas d'Isabelle.
Moi, je suis handicapée, j'ai 63 ans. J'ai quitté le logement parce qu'il fallait évacuer le quartier et je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir rentrer chez moi. Et je suis un petit peu inquiète, je suis très anxieuse.
Voilà, alors malgré l'inquiétude légitime d'Isabelle, peu de dégâts ici et la vigilance orange actuellement en cours devrait être rétrogradée dans la soirée.
Charles Huillier, envoyé spécial d'Europe 1 à Coursan près de Narbonne. 113 interventions de pompiers réalisées depuis hier dans l'Aude. Deux personnes se trouvent en urgence absolue après un accident lié aux intempéries. Coup d'envoi aujourd'hui pour les vœux sur Parcoursup. L'heure de vérité pour l'avenir des lycéens. Mais à cet âge-là, difficile de trancher. Alors les familles jouent un rôle décisif pour conseiller les candidats. Comme a pu le constater Laura Legault auprès d'un élève de terminale dans les Yvelines.
Sur une feuille, Nicolas a écrit tous ses vœux de formation par ordre de préférence. Le lycéen veut devenir ingénieur.
Je pense que je vais m'orienter plutôt vers les prépas ingénieurs. J'espère avoir les meilleurs prépas possibles.
Avec un bon dossier et une moyenne générale de 16, Nicolas est confiant, mais il préfère assurer ses arrières.
Des prépas sélectives et d'autres un peu moins. C'est ce qu'on nous a préconisé au lycée de faire, de mettre quand même des choix qu'on est sûr d'avoir.
Ses parents ont déjà accompagné leurs deux aînés pendant cette période stressante. Alors ils poussent aussi Nicolas à faire des vœux moins sélectifs, comme des licences d'économie à l'université.
Il vaut mieux, oui, assurer ses arrières. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Les algorithmes de Parcoursup peuvent être un peu particuliers et puis il n'est pas à l'abri d'un échec.
Mais Nicolas reste serein, même si le sujet est très souvent abordé en famille.
Moi, je trouve qu'ils en font un peu trop.
Alors oui, ça revient très régulièrement. C'est surtout mon mari qui va aborder le sujet jusqu'à ce que les vœux soient terminés dans Parcoursup.
Désormais, le lycéen a 8 semaines pour formuler ses vœux et il faudra attendre le 2 juin pour recevoir les premières réponses d'admission.
Laura Legault, je vous signale également cette 3e victoire de rang pour l'équipe de France masculine de handball à l'Euro. Victoire 38-34 face à la Norvège. Les Bleus finissent premiers du groupe C et vont entamer le tour principal du tournoi jeudi au Danemark. Et puis il était une icône de la haute couture. Le styliste italien Valentino est décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans chez lui à Rome. Cet emblème de la Dolce Vita des années 60 s'est fait connaître en habillant des stars d'Hollywood comme Audrey Burn, Sharon Stone ou encore Julia Roberts. L'Italie perd aujourd'hui une légende, écrit la première ministre transalpine Giorgia Meloni. La météo désormais à 22h15 sur Europe 1. Les pluies s'atténuent dans le sud, Marlène Duré.
Oui, l'épisode méditerranéen va se poursuivre encore demain matin avec des pluies régulières de l'Occitanie jusqu'au sud du Limousin. Et puis ensuite, elles vont régresser. Dans l'après-midi, elles ne concerneront plus que les Pyrénées-Orientales, où il neigera à partir de 1200 mètres. En Corse, aussi pas mal de pluie sur l'est de l'île, avec de la neige des 1600 mètres d'altitude et un risque d'avalanche de niveau 4 sur 5. Alors l'Aude est sortie de l'alerte orange pluie-inondation. Il faudra attendre 6 heures demain matin pour les Pyrénées-Orientales et les deux départements corses. Et puis d'autre part, une nouvelle perturbation va apporter de la pluie et du vent en Bretagne demain progressivement. Du côté des températures, eh bien elles seront généralement stationnaires avec au meilleur de la journée 3 à 6 degrés sur le quart nord-est jusqu'au nord de Rhône-Alpes avec 3 à Strasbourg et 6 à Lyon. Ailleurs, prévoyez 8 à 12 degrés avec 8 à Lille, 10 à Paris, 12 à Bordeaux. Comptez un peu plus dans le Pays Basque, 14 degrés et encore un peu plus en allant vers la Méditerranée jusqu'à 16 à Marseille et 17 à Ajaccio.
Merci beaucoup Marlène Duré. Un budget largement inspiré par les propositions socialistes qui sera adopté certainement dans les prochains jours via un 49-3. Sébastien Lecornu l'a confirmé tout à l'heure. Alors que vont faire les LR? Vont-ils censurer le gouvernement pour empêcher l'adoption de ce budget? Eh bien, je poserai la question dans un instant à l'invité politique d'Europe 1 Nuit, le député LR de l'Aisne, Julien Dive. A tout de suite.
Bonjour, c'est Sonia Mabrouk. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Toutes les questions exigent des réponses.
Sonia Mabrouk, la grande interview, du lundi au jeudi à 8h10 sur Europe 1. Europe 1.
La radio libre.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
Leclerc, bonjour.
Allô? Rassurez-moi, le gel douche Ushuaïa, il est bien en promo, c'est pour une urgence?
Oui, tout à fait, mais vous m'inquiétez, c'est quoi l'urgence?
Vous voyez ce moment où vous êtes sous la douche et vous réalisez qu'il n'y a plus de gel douche?
Aïe, oui, on a tous connu ça.
Eh ben moi, c'est maintenant.
Alors séchez-vous vite et venez nous voir. Du 20 au 31 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un gel douche Ushuaïa, le deuxième est à moins 80%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Europe 1 Nuit. Maël Hassani.
Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 ce lundi soir. Vous écoutez Europe 1 Nuit et j'accueille l'invité politique, le député LR de l'Aisne, Julien Dive. Bonsoir à vous, monsieur le député.
Bonsoir.
Alors, on parle de cette annonce principale dans l'actualité politique en ce lundi soir, l'utilisation du 49-3. Sébastien Lecornu qui trahit sa promesse, parce que quand il était arrivé à Matignon, il s'était engagé à ne pas utiliser ce passage en force. Il fait donc volte-face ce soir pour faire adopter un budget de l'État coécrit, disons largement, avec le Parti Socialiste. Bon, un budget coécrit avec le Parti Socialiste, ça veut dire automatiquement que les Républicains vont censurer le gouvernement Lecornu?
Alors, entre voter un budget, ne pas voter un budget, rejeter un budget et la question de la censure, c'est quand même des sujets qui sont relativement différents. C'est clair que ce budget aujourd'hui est totalement imparfait et insatisfaisant. Il ne nous convient pas. Et d'ailleurs, si Sébastien Lecornu a fait le choix de le présenter au vote, je pense que le groupe ne l'aurait pas voté, mais je pense même que nous aurions été nombreux à voter contre ce budget. Maintenant, la question qui se pose, qui nous dépasse toutes et tous, c'est la question de notre pays. Est-ce qu'on souhaite de nouveau projeter le pays dans l'instabilité au moment où il y a des ingérences? Et là, la question devra s'imposer en réunion de groupe. Donc, la question n'est pas totalement tranchée.
Donc, ce sera demain.
Mais oui, c'est demain, mardi. Les réunions de groupe ont lieu le mardi. Maintenant, le vrai sujet, c'est est-ce qu'il n'est pas plus intelligent et patriote de faire en sorte que le pays soit préservé d'une nouvelle instabilité et donc que nos ennemis s'en frottent les mains pour faciliter leurs ingérences, bien que ce budget, encore une fois, soit pas satisfaisant, ou est-ce qu'il faut le plonger dans l'instabilité? Je crois que ce sera vraiment l'enquête de conscience que nous devrons nous poser.
Alors, on sait qu'il y a très souvent deux lignes qui s'affrontent, qui, du moins sur certains sujets, au sein même du Parti Les Républicains. On imagine que tout le monde ne parle pas d'une même voix sur cette éventualité de censurer le gouvernement demain. Est-ce que vous voyez, au sein de votre parti, de réelles divisions sur ce choix à faire ?
Oui, mais il y a des divisions qui sont assez nettes, parce qu'il est plus facile et plus aisé, quand nous ne sommes pas députés, de dire qu'on ferait à la place des députés quand on n'est pas soi-même concerné. Je vois plein
de
déclarations.
C'est un tacle au vice-président de votre parti, Julien Aubert, par exemple.
C'est pas une question de tacle, c'est facile. Mais présentez-vous aux urnes, faites-vous élire député, puis vous agirez en conséquence. La seule question qui se pose est celle qui est posée aux députés, aux 50 députés. Et encore une fois, c'est nous tous, les 50, qui trancheront la question après débat et qui positionneront notre vote. Et je le redis, le groupe est assez solidaire. Le groupe avance. Alors évidemment, chacun est assez libre de faire entendre sa voix et ça s'est déjà fait par le passé. Je pense que nous sommes le seul groupe, d'ailleurs, qui fait entendre sa voix de manière différente, où on respecte la liberté de chacun. Mais on le fera de manière solidaire au sein des députés. Il faut savoir faire la part des choses et savoir ne pas confondre quelqu'un qui aimerait et quelqu'un qui est en fonction.
Ce débat sur l'opportunité de voter ou pas la censure du gouvernement Lecornu ne sera pas empoisonné une nouvelle fois par les rivalités, les désaccords entre Laurent Wauquiez, le chef des députés, et le président du parti, Bruno Retailleau?
Mais Bruno Retailleau vient en réunion de groupe, il est venu la semaine passée en réunion de groupe. Alors, les rivalités, les concurrences plutôt, je dirais, qu'il y a eu pour la présidence du groupe sont passées, la présidence du parti sont passées. Aujourd'hui, on est plutôt en train d'avancer, d'essayer de penser les plaies et de construire la suite. Et on a un projet qui va être présenté par le parti. Évidemment, on a besoin, en tant que parlementaires, de faire avec le parti, et le parti a besoin de faire avec les parlementaires. Donc on met de côté les petites querelles passées et on va se projeter sur la suite.
Alors ce 49-3 annoncé par Sébastien Lecornu, c'est pas tout à fait une surprise, hein. Ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'on se doute bien qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions. À vos yeux, il fallait absolument écourter ces débats en utilisant le 49-3, ou est-ce qu'il fallait continuer de discuter pour espérer peut-être aller au vote?
Les débats ont commencé en novembre, ça fait quand même 3 mois que le signe va durer. Donc il était certain qu'il fallait que, à un moment donné, on siffle la fin de la récréation, parce qu'on voit la tournure des débats à l'Assemblée nationale. On voyait des deux côtés d'ailleurs de l'hémicycle des taxes qui étaient votées, et on voyait bien qu'il n'y avait aucune volonté de faire en sorte qu'un budget responsable ou équilibré puisse sortir.
Donc il fallait activer ce 49-3.
Le Premier ministre a pris sa responsabilité, je ne suis pas à sa place, et il a fait ce choix-là, et puis maintenant il assumera. Mais ce que je veux dire, c'est que les débats qui ont eu lieu ont permis de mettre en lumière les positions des uns des autres et les projets des uns des autres. Par exemple, on a vu des DGF supprimés, on a vu des taxes augmenter, on a vu un peu de tout. Donc ça a permis déjà de montrer ce que vont être les débats de la présidentielle.
Il y avait aussi la possibilité de recourir aux ordonnances. C'était une possibilité trop brutale à vos yeux? Ce 49-3 est peut-être un peu plus respectueux du Parlement?
au moins, il prend en compte la tenue des débats. Il prend en compte des amendements qui ont été défendus. Ça, c'est la différence avec l'ordonnance. À la fin des fins, ça ne change pas vraiment la donne, puisque c'est un, entre guillemets, c'est pas un vote, c'est un budget qui est présenté par le gouvernement et qui est imposé par le gouvernement. Voilà la réalité des choses. Ordonnance ou 49.3.
Alors, il y a la méthode pour faire adopter ce budget, puis il y a également ce que contient ce budget. Le Premier ministre Sébastien Lecornu semble avoir tout simplement cédé à toutes les exigences du Parti Socialiste. Comment justifiez-vous votre feu vert à un budget qui est effectivement coécrit quasiment par le PS? Ça peut être parfois un peu déroutant.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un feu vert? On n'a jamais dit qu'il y avait un feu vert.
Un feu vert à l'adoption de ce budget, de fait, parce que la seule façon de s'y opposer, c'est de voter la censure du gouvernement.
C'est un 43. Mais encore une fois, vous ne faites pas la différence entre un budget et l'instabilité dans laquelle le pays serait plongé. En fait, il faut aussi se projeter. On peut faire tomber le gouvernement. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. Faites tomber le gouvernement. Bien. Donc on aura, on connaît la suite, peut-être une dissolution. Bah, très bien, on ira aux urnes. Et puis.
Ça vous fait pas. Il n'y a pas de crainte d'aller aux urnes.
Mais attendez, moi je me suis présenté 4 fois. J'ai battu 4 fois le Rassemblement National. Donc aller aux urnes, c'est pas un sujet. On ira s'il faut y aller. Mais la question, c'est une élection législative. Très bien. Donc ça veut dire un budget en avril-mai. Un budget en avril-mai avec aucune garantie d'ailleurs d'avoir une majorité au Parlement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de majorité, on sera dans le même cinéma qu'aujourd'hui. Donc on tout ça pour ça. Donc arrêtez de dire qu'il y a un feu vert. Je viens de vous dire que nous n'étions pas d'accord avec ce budget. C'est dommage d'ailleurs que Sébastien Lecornu ait cédé autant au Parti Socialiste. Il a fait son choix, il l'assumera pour son avenir politique personnel.
Est-ce que vous revendiquez tout de même certaines victoires, vous, chez LR, parce que vous avez aussi discuté avec le Premier ministre, est-ce que vous revendiquez certaines victoires dans cette copie finale du budget ?
On nous invite à partager nos positions, ce qui a été fait par le parti, ce qui a été fait par le groupe, avec notamment des mesures en faveur de la France du travail. Et ces mesures en faveur de la France du travail ont été intégrées dans le budget. C'est au moins ça, c'est déjà ça. Mais ça suffit pas pour nous satisfaire, encore une fois. Mais au moins, on a engagé notre ligne, ce que nous voulons défendre pour les mois à venir. Vous l'avez dit, le 49.3 permet de clore le débat budgétaire et notre pays a aussi d'autres urgences. Moi, je pense à l'urgence agricole aujourd'hui qui attend des réponses. Un projet de loi sur la question agricole, des urgences sur la simplification pour les entreprises, des urgences sur la sécurité avec la suite de la lutte contre le narcotrafic, mais pas uniquement. Vous voyez, on a aussi d'autres sujets à aborder dans le pays pour les quelques mois qui restent pour cette Assemblée nationale et ce gouvernement.
Alors il y a cette réaction de Bruno Retailleau qui qualifie ce budget qui évidemment dénonce également toutes ces concessions accordées au Parti Socialiste. Le président des LR semble se résoudre au fait que les vrais sujets sont renvoyés à 2027. La France peut vraiment se permettre de perdre encore quasiment 2 ans dans le contexte actuel que vous avez décrit d'ailleurs ?
Quasiment 2 ans, mais les élections présidentielles c'est dans 12 mois. D'ailleurs, ne faisons
c'est
pas
dans,
comme
non,
si
c'est dans un an et demi,
étaient...
voilà.
Dans 12 mois, ne faisons pas comme si les 13 mois, si vous voulez, ne faisons pas comme si les choses étaient allaient continuer comme ça, puisque nous savons tous très bien que à partir de l'été prochain, l'ensemble des partis sont déjà en campagne présidentielle. Donc ne faisons pas semblant. On sait tous, et vous en tant que journaliste, nous en tant que parlementaires, savons pertinemment que dans les mois à venir, ce sera un autre temps qui va s'engager. Donc c'est pas non plus une perte pour le pays. Il y aura un débat légitime qui doit y avoir, que nous n'avons pas eu en 2022. Et ce débat sera celui du choix de société que nous voulons pour notre pays, pour nos enfants. Et je pense que ça sera sain.
Julien Dive, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député LR de l'Aisne, vous êtes l'invité politique d'Europe 1 Nuit ce soir. Parlons de la situation internationale, si vous voulez bien. C'est vrai que ça fait partie effectivement de ce contexte explosif. Donald Trump qui menace d'imposer des droits de douane sur les produits en provenance de 8 pays européens, dont la France, pour les forcer à céder sur le Groenland. Les États-Unis doivent-ils toujours être considérés comme nos alliés ?
Bien sûr, ce sont nos alliés, il ne faut pas mélanger les choses. Je pense que les États-Unis, le président Trump a une position très business des choses, a une vision très business. Il l'a démontré par le passé et il continue de démontrer avec la question du Groenland parce qu'au travers du Groenland, c'est aussi des enjeux économiques qu'il voit bien. Ça reste un allié géopolitique, ça reste un allié stratégique, c'était évident. Il y a une longue tradition, une longue histoire d'amitié franco-américaine et ça ne se renie pas. Pour autant, on peut aussi avoir des divergences, comme dans une famille. Dans dans une famille, ça nous arrive de nous engueuler. C'est un peu ce qui peut se passer avec ce temps, même si on n'en est pas non plus monté dans des escalades qui seraient irréversibles.
Donc quand Emmanuel Macron évoque l'instrument anti-coercition de Bruxelles, qui est effectivement la mesure la plus forte pour répondre à Donald Trump, vous estimez que c'est peut-être un petit peu exagéré, qu'il y a peut-être des solutions intermédiaires ?
Bien sûr qu'il y a des solutions intermédiaires, continuer de discuter. Maintenant, il faut aussi montrer que nous ne sommes pas les vassaux des États-Unis comme nous ne sommes pas les vassaux des Russes. C'est toute la grandeur de la France, et j'aimerais qu'on parle un peu plus de la France que de l'Europe, c'est toute la grandeur de la France de savoir aussi, par moment, s'affirmer. On l'a vu par le passé avec des grands chefs d'État comme Jacques Chirac l'a fait en son temps. Mais il faut savoir s'affirmer et montrer que nous ne sommes ni les vassaux d'un côté, ni les vassaux des autres.
Pour terminer, Julien Dive, revenons sur ces propos tenus par Rima Hassan. Vous en avez peut-être entendu parler ces dernières heures, c'était lors d'un meeting de campagne vendredi dernier. L'eurodéputé LFI n'a pas hésité à déclarer, je cite, « Abba Retailleau ». Donc elle parle du président de votre parti, évidemment, ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Sous les applaudissements de la salle, un cap est franchi à vos yeux avec cette déclaration.
Un cap est complètement franchi, mais cette dame ne peut même plus se revendiquer comme une républicaine. Cette dame en train, très clairement, d'appeler à la mise à bas d'une personnalité publique. Enfin, faut quand même se rendre compte des lignes qui sont dépassées. J'espère qu'une plainte sera déposée par Bruno Retailleau, j'espère que Madame Hassan sera traduite devant la justice, et j'espère qu'elle sera condamnée. C'est une honte, ces gens-là n'ont rien à faire dans des mandats électoraux.
Merci beaucoup Julien Dive. Je rappelle que vous êtes député LR de l'Aisne. Merci d'avoir été l'invité politique d'Europe en Nuit. Et à 22h30, c'est l'heure de retrouver Roland Pérez pour la Libre Antenne jusqu'à 1h. Bonsoir Roland.
Je suis content de vous retrouver, Maël.
C'est le grand retour. Vous étiez outre-Atlantique.
J'étais à New York, oui. Incroyable. Le film a été présenté à New York sur Lincoln Avenue.
Votre film, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Oh là là là, quelle honte.
Voilà, présenté à New York, cette affiche comme ça où ma mère, enfin l'histoire de ma famille et de ma maman trônait comme cela à New York. C'est un peu le rêve américain. C'était assez drôle, assez beau, assez magique. Voilà. Après ces 5 jours, j'étais très heureux. Je suis très heureux de revenir à cette Libre Antenne avec vous. Je vous ai apporté la galette des rois que j'avais omis la dernière fois.
Formidable.
Donc tout à l'heure, on verra pendant une des chansons de l'émission, nous dégusterons une petite part. Et
très
puis je voulais vous dire qu'on a reçu pas mal de cartes et de messages et de lettres là sur mon bureau de toute cette semaine, et beaucoup me parlent de vous. Nous disent que voilà, qu'ils sont très amusés lorsqu'on a nos échanges sur votre dulcinée. Comment va-t-elle?
Très bien.
Vous avez pris 5 jours de repos quand même, où je vous ai pas posé de questions.
J'espère
que vous avez un tas de confidences à nous faire.
Vous savez que ça m'a manqué.
Vous avez besoin de parler ce soir. Peut-être qu'à 23h après le flash, on aura quelques petites informations. On se retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.
C'est vrai, c'est du bon sens. Europe 1, 22h30, 1h.
La Libre Antenne.
Roland Pérez.
Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là, fidèles, si nombreux chaque soir, un peu plus, on le sent, on le vit, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, et cette Libre Antenne grandit avec vous. Merci aux fidèles, merci surtout également aux nouveaux auditeurs qui découvrent ce rendez-vous, où l'on peut parler vrai, sans masque et sans jugement. Ce soir encore, on va parler d'amour peut-être, de celui qui dure, de celui qui s'abîme, de celui qui revient quand on n'y croyait plus. On va parler de famille qui se sert, de famille qui se déchire, parfois de silences qui font mal et parfois de mots qu'on n'a jamais osé dire. Si vous traversez une rupture, si vous espérez encore, si vous vous sentez seul ce soir ou au contraire plein d'un projet, d'une rencontre, d'un désir de recommencer, cette émission est la vôtre. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. Florian et Julia, vous le savez, sont là à l'écoute, bienveillants pour recevoir vos appels, et à la réalisation, comme chaque soir, Laurent Pellet, que je remercie. Vous pouvez également nous écrire au 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit. 0,75 € plus le prix du SMS. On est ensemble jusqu'à 1h du matin sur Europe 1, de 23h, de 22h30 à 1h. Et ici, vous allez voir, vos histoires comptent.
Bonjour, c'est Marie-Estelle Dupont sur Europe 1.
Et si on en parlait ?
Par-delà les déclarations d'amour entre les Français et les agriculteurs, la réalité est brutale. Demain, avec Romain Desarbres, je reçois Nicolas Chabanne, fondateur de la marque C'est qui le patron, pour une juste rémunération des producteurs.
Et si on en parlait ?
Émission spéciale consacrée au rapport contrarié entre les Français et les agriculteurs, demain, de 15h à 16h, sur Europe 1. Et retrouvez toutes les émissions précédentes en replay sur le site et l'application Europe 1.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Europe 1, 22h30, 1h.
La libre antenne.
Roland Pérez.
Et bonsoir, Jorane.
Bonsoir, Roland.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'accueillir.
Ah ben non, on est très heureux. Quelle histoire de vie, quel parcours de vie vous avez eu et comment ce que vous avez fait de votre vie. Une personne qui vous est proche aujourd'hui, que vous aimeriez être peut-être votre père adoptif, vous a dit « Tu ne me dois rien, tu te dois tout, je n'ai rien fait ». Et je crois qu'il avait parfaitement raison. On commence par le début.
Bien sûr.
Vous allez être placé très jeune, à 6 ans, à l'aide sociale à l'enfance, par l'aide sociale à l'enfance, car vos parents sont incarcérés. Et ils sont incarcérés pour des actes de violence, de torture, de barbarie. Et même si cette incarcération n'a rien à voir finalement ou directement lié aux violences que vous avez subies, eh bien pourtant, c'est bien des parents violents que vous avez eus dès votre plus jeune âge avec votre... Je crois que vous êtes une fratrie de 3 enfants.
C'est ça. À l'époque, nous étions 3 qui vivions chez des parents violents. Et c'est vrai qu'il y a eu de nombreux signalements que j'ai pu découvrir à l'âge adulte dans mon dossier de violence, de coups portés, des hématomes qui ont été repérés par les écoles. Beaucoup de changements aussi de lieux scolaires. Malheureusement, ces signalements, ils n'ont jamais abouti à un placement. Faute de moyens, faute de place, alors que la protection de l'enfance, c'est un système qui manque beaucoup de moyens, beaucoup de professionnels. Donc moi, j'étais avec mes frères et sœurs dans ces failles. Donc les violences, un mois avant l'incarcération de mes parents, je m'en souviens. Alors je ne m'en souviens pas en avoir vécu, mais je me souviens celles que mon frère vivait ou celles que ma mère vivait. Mmh. Quand on est enfant, c'est vrai qu'on... On peut, en grandissant, un peu mettre des souvenirs dans un coin de sa tête. Peut-être que ceux-ci sont cassés quelque part. Et puis, comme vous avez dit, mes parents se retrouvent incarcérés.
Et là, direction votre grand-mère, vos parents sont incarcérés. Alors, je l'ai dit pour des actes de violence, mais sur vous, les coups ont battu, ont plu. Je veux dire, il y a votre frère qui a failli mourir noyé dans une baignoire, des coups de bâton de fer sur votre tête, par votre mère. Enfin, on va y revenir sur vos parents, mais c'est un peu Julia qui s'est entretenue avec vous pour préparer cette émission, dit c'est un peu les Misérables de Victor Hugo.
Un petit peu ça, oui. Un peu beaucoup, oui. J'en ris, mais en réalité, c'est quand même très triste de dire d'avoir vécu toutes ces violences et d'être restée dans ce contexte-là, malgré les violences, malgré les coups, comme vous le dites.
Et le fait qu'effectivement, et vous n'incriminez même pas la protection de l'enfance, puisque vous dites ils n'ont pas pu déceler, ils n'ont pas pu prendre des mesures, il y a des dysfonctionnements parce qu'ils sont tellement habitués à ce type de situation que parfois même ils passent à côté. Vous n'avez même pas de mécontentement, de haine à l'égard de ces services sociaux qui auraient peut-être pu vous repérer avant, repérer votre famille, votre frère, votre sœur, vous-même, peut-être avant, et ça n'a pas été le cas.
De la colère, j'en ai eu quand j'étais adolescente. Je ne vais pas vous mentir, on traverse tous, quand on vit des histoires comme ça, toujours à un moment donné, on est en colère. Mais je crois que ma détermination et mon envie de m'en sortir ont fait un peu oublier cette colère. Disons que je l'ai mis dans autre chose.
Oui, dans une énergie.
Ma volonté.
Oui.
C'est ça, dans une énergie. Bien, dans une énergie. J'ai pu la transformer, en fait, cette colère, parce qu'au final, si... En pensant être en colère contre les autres, au final, on retourne plus cette colère contre nous-mêmes. Et en effet, c'est la faute à tout le monde et à personne en même temps. Et plutôt qu'être en colère, je préfère me dire, voilà, aujourd'hui, il y a un constat, il y a de l'injustice dans ma situation, il y a de la tristesse, il y a de la violence qui a été repérée quand même, parce qu'elle a été repérée quand j'avais 3 ans, j'ai pu lire les rapports sociaux qui font état de cette violence, de ces coups que j'ai subis. Donc, elle a été repérée, mais il n'y avait pas de place, en fait. Il n'y avait pas de mesure derrière ces repérages de violence.
C'est donc votre grand-mère qui va vous récupérer. Alors, dans un premier temps, il n'y aura pas de violence, mais il y a une autre type de violence. C'est le syndrome de Diogène dont votre grand-mère est victime. Et ce syndrome de Diogène fait que vous vivez dans la crasse la plus totale et que vous êtes l'objet, évidemment, on l'imagine, à l'école, de railleries, de moqueries, de formes de harcèlement.
Harcèlement poussé, oui, à son paroxysme, parce que je suis souvent, d'ailleurs c'est comme ça que je vais me rendre compte, c'est avec l'école que j'affectionne tout particulièrement, que je vais me rendre compte que le mode de vie de chez ma grand-mère n'est pas normal. Quand je me retrouve chez elle, c'est un peu ma sauveuse, c'est ce qu'elle me dit aussi tous les jours. Mes parents, je me retrouve sans mes parents du jour au lendemain. De toute façon, j'avais toujours vécu dans la violence. Mais là, cette maison, elle est remplie de poubelles, de détritus. J'ai pas accès à l'hygiène. Je passe mes journées de petit enfant à sortir des poubelles, à faire des montagnes de vaisselle. Et au final, je peux pas me construire. Je peux pas me construire en tant qu'adolescente, en tant que plus tard, en tant que femme. Il va me manquer tellement de choses à apprendre qu'on aurait dû m'apprendre toutes ces années, parce que je vais quand même y rester 10 ans avec mes frères et sœurs. Donc c'est de très longues années. J'avais 6 ans quand je suis arrivée chez ma grand-mère. J'en aurais 16 quand j'y repartirai. Et voilà, c'est de longues années. C'est l'école, c'est les camarades qui vont me faire me rendre compte que non, c'est pas normal. C'est pas normal de sentir aussi mauvais. C'est pas normal d'avoir les cheveux aussi gras, parce que cette mauvaise hygiène, elle se voit. Elle est visible.
Et pourtant, les rapports éducatifs, même à l'époque, faisaient état d'un suivi tout à fait satisfaisant. Donc, c'est tout le décalage entre votre situation, ce que vous viviez, ce que vous aviez déjà vécu et ce que vous continuez de vivre, qui est totalement anormal pour une petite fille, pour des enfants, d'être plongée comme ça dans cette misère crasseuse. Alors, je ne sais pas, il y avait de l'amour de la part de votre grand-mère quand même ?
Il y avait de l'amour à sa façon. Il y avait de l'amour de ce qu'elle pouvait donner. Il y avait des choses anormales, des choses plutôt normales. Je pense que c'est pas de... Enfin, comment dire ? Chacun a sa façon d'apporter de l'amour. Je pense qu'elle l'avait. Mais ça n'excuse pas, du moins, ça ne diminue pas les maltraitances ou les mauvais traitements pendant cette période. Mais forcément, je pense que c'est plus complet... plus complexe que savoir s'il y a eu de l'amour ou pas. C'est juste que c'était une femme qui, et c'est une femme peut-être encore aujourd'hui, je ne sais plus à pas parce que j'ai pas de contact avec cette dame, mais en tout cas ma grand-mère est une femme, je pense, qui souffrait énormément, parce que le syndrome de Diogène est quand même une maladie, et je pense que c'était peut-être trop compliqué pour elle de s'occuper de nous.
C'était la maman de qui, de votre maman ou de votre papa?
C'était la maman de ma maman.
Oui, de toute façon, il y avait l'échec visiblement de ce qu'elle avait pu donner comme éducation à votre maman, puisque votre maman avait cette violence en elle et elle a trouvé écho auprès de votre papa, j'imagine.
Oui, c'est ça. Et c'est une violence qui est assez systémique, hein. C'est de la reproduction et d'où l'intérêt de protéger les enfants dans des situations comme ça et d'avoir les moyens de les protéger. Et c'est vrai que ces rapports éducatifs font état d'une prise en charge qui est correcte. Pendant toutes ces années, il y a eu très très peu de visites d'éducateurs. C'est une mesure qui s'appelle les mesures AEMO. Donc en fait, c'est des éducateurs qui viennent à votre domicile. Et ce qui s'est passé dans ma situation, c'est que jamais les éducateurs sont venus voir là où je dormais, là où je mangeais. Ils restaient aux abords de la maison et ma grand-mère avait une toute petite pièce où c'était à peu près propre, mais on sentait l'odeur. Et quand il y a une situation comme la mienne avec les parents étaient incarcérés, les trois frères et sœurs se retrouvent chez cette pauvre grand-mère, et ben, que ce soit les professionnels du social ou même les personnes du milieu scolaire aux alentours peuvent se dire, mais cette pauvre grand-mère, elle fait déjà tellement pour ses petits, sans regarder vraiment le bien-être des enfants.
Oui, oui. Et puis, est-ce qu'ils ne se sont pas posé la question de savoir si ce ne serait pas moins bien ailleurs? Donc, ils se disaient qu'au moins vous étiez avec quelqu'un de votre famille, alors que là, vous alliez être replacé. Après, c'était votre vous et votre chance, et vous allez faire de belles rencontres. On va y venir. Alors ensuite, vous avez évidemment face à cette enfance chaotique, vous avez fugué à plusieurs reprises. Vous avez même, je crois, fait une tentative de suicide. Et là, vous avez abordé la psychiatrie.
C'est ça. J'avais quel âge? 12 ans, peut-être 12 ans, 13 ans. 12 ou 13 ans, je ne saurais pas vous dire l'âge exact, je ne voudrais pas vous dire des bêtises, mais j'étais très jeune, j'étais en classe de 5e, quand je ne supporte plus l'endroit où je vis, justement cette violence que je vis avec ma grand-mère, et je parle, je dis que je veux m'en aller, que je ne veux plus être là, mais on va pas m'écouter, on va mettre mes propos surtout sur le dos d'une crise d'adolescence, parce que c'est tout autre. Et du coup, je vais faire plusieurs tentatives de suicide jusqu'à me retrouver internée. C'est là qu'on va m'entendre, mais pas totalement, malheureusement. Je vais rester du coup plusieurs mois hospitalisée. Ils vont comprendre qu'il ne faut pas me renvoyer chez ma grand-mère, que ce n'est pas un lieu de vie sain. Donc, je vais être placée en famille d'accueil, dans une super famille d'accueil, qui vont prendre soin de moi, qui vont me faire me laver.
Chez Séverine, la première famille où vous allez. Séverine, assistante familiale que vous n'avez jamais oubliée.
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je n'aime pas voir le système de protection d'enfance comme tout noir et comme que de colère. Parce que vous voyez, cette femme en fait partie. C'est un des acteurs de la protection de l'enfance. Elle était juste exceptionnelle. Et ces deux semaines chez elle, je les ai encore dans mon cœur. Et je lui en suis très reconnaissante d'avoir fait son travail du mieux qu'elle pouvait. Malheureusement, elle ne va pas avoir assez de place en lieu d'accueil pour me garder plus que 2 semaines. Il ne va pas avoir d'autres places et on va me demander de retourner chez ma grand-mère. Alors, je me souviens du jour où je rentre parce que j'étais tellement en colère et je me sentais tellement incomprise. À ce moment-là, cette colère, je l'avais. Et je cherchais à tout prix à sortir de la voiture. Je sortais de la voiture de mon grand-père alors qu'il roulait. Et il m'y remettait et il m'a donné un coup de poing ce jour-là. Et pour que je reste dans la voiture, pour que je ne ressorte pas et pour que je puisse rentrer chez eux, là où je ne voulais pas être. Mmh. Et après, je me suis un peu résignée.
Mais c'est quand même là où vous allez toucher ce que peut-être la normalité, vous ne l'aviez jamais connu la normalité, vous ne l'aviez pas connu avec vos parents évidemment, avec ces coups qui pleuvaient, et dont votre frère et votre sœur étaient au même titre que vous victimes, vous ne l'avez pas connu non plus avec votre grand-mère, même si, et votre grand-père, je ne savais pas qu'il y avait un grand-père, votre grand-mère vivait avec, vous aviez, le couple était là. Vous l'avez pas connu donc avec ce couple-là non plus, même si il y avait moins de violence, mais il y avait d'autres types de violence. Et puis c'est au contact de Séverine, de ces jours passés chez elle, de ces draps frais dans lesquels vous allez vous glisser, de cette nourriture que vous allez recevoir enfin manger à votre faim, de ces bons repas équilibrés, de ces douches que vous allez pouvoir prendre, de ces bains que vous allez pouvoir prendre. C'est là où vous avez enfin touché du doigt la normalité, que vous vous êtes dit c'est ça que je veux, c'est pouvoir être normal plus tard.
C'est ça, c'est cette vie. En fait, c'est cet exemple qu'elle m'a montré que j'ai voulu garder et que j'ai voulu vivre de la façon dont elle m'avait montré, pas vivre autrement.
Donc vous repartez chez vos grands-parents, vous continuez probablement les fugues, les mal-être, et puis va arriver quelque chose qui au départ peut s'avérer comme quelque chose que vous n'avez pas souhaité, que vous n'auriez pas voulu forcément avoir, mais qui va peut-être vous sauver, c'est que vous tombez enceinte.
C'est ça. Alors, mon fils, au départ, c'est mon pire cauchemar. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas souhaité. On n'est pas préparé. J'avais 16 ans. Je vivais dans un milieu complètement instable. Sans repère, bien que j'ai eu ces deux semaines chez Séverine, j'avais encore tant à apprendre. Et j'avais vraiment pas d'endroit, de petit cocon, justement, le faire naître. Et donc, je vais d'abord partir sur une procédure d'adoption. Puis je vais me rétracter de cette procédure.
C'est-à-dire que vous allez accoucher sous X ? Vous envisagez d'accoucher sous X ? Ou vous avez accouché sous X ?
Alors, je l'ai fait. J'ai accouché sous X. Il faut savoir que j'ai fait un déni de grossesse, donc je vais apprendre ma grossesse à 3 semaines avant le terme. Donc, c'est très court.
C'est à ce point, oui.
On est à 3 semaines de l'accouchement quand j'apprends que je suis enceinte.
Et vous aviez une relation suivie avec le papa ou même pas ?
Non, c'était pas une relation
sentimentale.
Sentimentale, je ne saurais dire, mais en tout cas pas consentie. C'était une relation que ma maman m'avait demandé d'avoir à sa sortie de prison. Il faut savoir qu'elle est sortie d'incarcération beaucoup plus tôt que mon papa, qui sortira après ma majorité. Elle sortira bien avant et l'éducateur nous permet d'aller chez elle en week-end. Et lors de ces temps de week-end, moi je suis heureuse. Je revois ma maman, bien qu'elle soit violente, ça reste ma mère, ça reste. Et elle me demande d'avoir des relations intimes avec ce jeune garçon. Elle me demande d'avoir une relation sentimentale, que soit mon petit ami. J'avais 14 ans quand ça a commencé.
Mais elle le connaissait d'où, pourquoi, c'était quoi son objectif?
Alors, son objectif, je pense que c'était juste que sa fille soit en couple et parce que c'était à elle sa normalité, voir que maman a une sexualité très inhibée, désinhibée. Voilà, où je l'ai surpris à plusieurs reprises d'avoir des relations sexuelles, où elle va m'expliquer ses relations intimes. Et c'est sa façon de vivre à elle. Et à 14 ans, cet homme, c'est juste le fils d'une de ses amies et elle estime normal. Que j'ai des relations intimes. C'est sa normalité à elle. Elle n'y voit ni danger, ni attitude choquante. Il n'y a pas de prévention, rien. Elle souhaite juste que sa fille ait des relations intimes. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais ce que je veux par-dessus tout, c'est faire plaisir à cette maman.
Que vous retrouvez enfin, oui, c'est ça.
Voilà, que je retrouve enfin, avec qui j'ai envie de passer du temps.
Alors, c'est une autre forme de violence, évidemment, que de vous imposer cela. Vous n'aviez jamais eu de relation avant ?
C'était mes premières relations. Donc, c'était extrêmement violent vivre ces premières relations dans ce contexte-là. Ça va durer 2 ans. Et donc,
vous allez voir régulièrement ce garçon pendant 2 ans et vous le verrez à chaque fois que vous irez chez votre mère ou vous le voyez en dehors ?
Systématiquement quand je vais chez ma maman, puis après elle m'envoie aussi chez la maman de ce garçon. C'est une relation qui est comment dire, acceptée par toute cette famille, qui trouve ça tout à fait normal.
Oui, qui est pilotée quasiment par les deux familles, par les deux mères. Et votre maman, à ce moment-là, quand vous la voyez, quand elle sort de prison, alors on le dit, là, elle exerce ce type de violence, mais est-ce qu'elle a encore à votre égard des actes de violence physique ou ça s'est apaisé ? Est-ce qu'elle a compris certaines choses ?
Il y en a toujours. Alors il y en a toujours, sauf que j'essaie d'avoir du répondant et c'est là où ça tourne mal, quand je ne fais pas ce qu'elle dit, quand je refuse à subir ou à écouter, ça devient violent. Maman crie dessus, maman me frappe et ça en vient toujours au cou. Les pompiers interviennent régulièrement sur ces temps d'hébergement chez ma maman parce que justement il y a des cris, parce qu'il y a des coups, parce qu'il y a beaucoup de violence.
Et là, une fois de plus, on se dit pas que si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'irez pas ?
Non, on ne se dit pas ça. Il y a un éducateur que je vois une fois dans l'année. Après mon séjour à l'hôpital, j'ai plus confiance en ce système. Je suis en colère. Je me dis que, en fait, cet éducateur, il ne me sert à rien. Je le vois pas comme une personne qui peut me protéger. Et je finis par juste accepter, me résigner encore une fois. me résigner à continuer à vivre les violences, mais d'un autre côté, m'accrocher à ma scolarité, m'accrocher à ce que je vois ailleurs, qui est possible, et de me dire que ben voilà, un jour j'aurai 18 ans et je pourrai partir. Un jour j'aurai des
vous
études,
serrez les dents,
un jour j'aurai un métier.
Vous serrez les dents et vous
il faut s'accrocher.
Vous vous accrochez à cette normalité que vous voulez à tout prix. Donc cette grossesse révélée, ce déni de grossesse va faire en sorte que vous allez accoucher sous X. Et puis à un moment donné, ben il y a un certain délai qui permettrait à cet enfant accouché sous X d'être adoptable. Et là vous vous rétractez.
C'est ça, je me rétracte. Mais à une condition. C'est-à-dire que pendant cette période de grossesse, d'accouchement sous X, je vais être accompagnée par des éducateurs d'un centre maternel. Et je vais demander à l'assistante sociale de l'adoption vivre dans ce foyer maternel. Je vais dire que je peux être la mère de cet enfant, mais par contre, je peux pas faire vivre à cet enfant.
Chez vos grands-parents, bah, ça c'est sûr.
Voilà. Et puis, tout ce que j'ai vécu, je veux sortir de ce contexte, mais c'est compliqué parce que j'ai même peur de le dire à ma grand-mère. À cette époque, mon grand-père est décédé. Je suis seule avec ma grand-mère et mes frères et sœurs. Et j'ai peur. J'ai très peur. Je me sens encore très reconnaissante, en fait, parce que toutes ces années, on m'a répété...
Il y a une sorte de culpabilité de la laisser ou de partir.
De la laisser, je me sens très
Et votre frère et votre sœur est plus petit, plus grand, vous êtes au milieu ?
Alors, je suis l'aînée. L'aînée de cette fratrie.
Oui, donc il y a en plus le fait de laisser aussi votre frère et votre sœur.
C'est ça, il y a beaucoup de culpabilité aussi envers eux. Mais je fais quand même ce choix. J'arrive à dire à ma grand-mère que je veux vivre en centre maternel sans forcément lui dire les raisons. Juste lui dire que c'est comme ça et je serai soutenue par les éducateurs de l'époque. Et je rentre dans ce foyer maternel pour vivre ma vie d'adolescente, mais en même temps de maman. Je décide de poursuivre ma scolarité. Mais très vite, les éducateurs du foyer maternel ne peuvent plus m'emmener en cours parce que je ne me retrouve plus dans la même ville que mon lycée. C'est-à-dire que je vais être en année de première quand je vais accoucher. Je vais poursuivre et puis à quelques mois du bac, il n'y aura plus personne pour m'emmener en cours et je ne vais plus pouvoir aller. C'est un peu un coup de massue pour moi. Et puis autant cette aide du foyer, je la demande, mais autant cette colère, elle est toujours présente et j'ai du mal à respecter le cadre, les règles au foyer à ce moment-là, parce que cette normalité, on me demande de l'avoir, on essaye de me l'apprendre, mais moi, je n'arrive pas à l'accepter venant des éducateurs. Parce que j'ai beaucoup trop de ressentiments au vu de mon parcours, au vu du fait de mon sentiment de jamais avoir été écoutée face aux violences que je pouvais vivre toutes ces années, que je refuse tout conseil, qui sont pourtant, pour le coup, très pertinents et un accompagnement pour lequel il y a peu de choses à reprocher. Et donc, je vais beaucoup fuguer du centre maternel. Et pendant mon passage au centre maternel, je vais me faire une amie et je vais me rendre chez son frère et chez son beau-frère, pardon, et sa sœur tous les week-ends avec mon fils. On va y aller dès mon arrivée au centre maternel. Je vais y passer des semaines et des semaines. Je vais quasiment être absente tout le temps du centre maternel jusqu'à mes 18 ans. Et là-bas, je vais y découvrir une famille. Et c'est là-bas vraiment que je vais apprendre la normalité, que je vais la garder, que je vais avoir des personnes qui tiennent à moi. Donc son beau-frère, à cette amie du centre maternel, il va rapidement devenir un vrai repère pour moi.
Il va se prendre d'affection pour vous. Oui, c'est un ancien légionnaire.
Oui, c'est ça, c'est un ancien légionnaire. Il est camerounais. Il a été boxeur professionnel aussi, il est
donc
très sportif.
Il connaît la discipline, la rigueur, il a un cadre de vie. Il va vous transmettre tout ce que vous cherchiez, tout ce que vous vouliez, ce cadre de vie que vous avez cherché toute votre vie pour rentrer enfin dans une sorte de normalité que vous n'aviez jamais connue.
C'est cela, il va toute cette discipline, il va me la transmettre. Et aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute. Il a passé des heures à m'écouter, des heures à me parler aussi. Et avoir beaucoup de patience, que ce soit la vaisselle que je ne savais pas faire, me laver, que je ne savais pas me laver, que je ne savais pas cuisiner, je ne savais pas faire le ménage. En fait, tout ce qui touchait à l'hygiène ou même à l'alimentation, je ne savais pas faire.
Mais quand vous fuguiez
du foyer pour aller chez cette famille, ce légionnaire, il avait une femme, des enfants,
il avait seulement une femme, puis après il a eu des enfants. Aujourd'hui, il a 3 enfants.
D'accord, donc il y avait au moins ce premier cadre familial. Quand vous fuguiez, quand vous partiez de ce foyer, on ne venait pas vous chercher, on ne vous obligeait pas à rester au foyer, on acceptait ces fugues. Il savait où vous étiez au centre?
Alors, les procédures en cas de fugue dans la protection de l'enfance sont très administratives. Elles sont peu dans le lien, peu dans le contact réel, en fait. Ce sont juste des signalements à la police faits par mail. Il n'y a pas de recherche, en fait. Quand on part, on nous dit que, voilà, vous fuguez, vous risquez d'être mis à la rue, on risque de ne plus vous accompagner. Mais ça s'arrête là. On fait pas de recherche, on vient pas vous chercher, on vous tire pas par la main.
C'est ce qui va vous permettre d'avoir enfin des projets, des rêves. Et on va s'interrompre quelques petites minutes et on va se retrouver, Joran. Vous allez nous raconter cette résilience et surtout ces rêves que vous aviez et qui se sont réalisés. Je peux vous dire que c'est exceptionnel. Restez avec nous, Joran, et restez avec nous, chers auditeurs, sur Europe 1. Dans quelques instants, on va continuer de parler avec Joran. À tout de suite. Tous les jours de 7h à 9h, retrouvez toutes les